l'époque, c'est vraiment moi le premier que j'entends dire ça. J'entends dire, je vais m'installer 3 mois dans une cité pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je lui dis, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Si tu veux comprendre une cité, il ne faut pas venir au moment où c'est chaud. Il faut venir le matin à 7h du mat, il faut être là à 23h30 quand il y a d'autres gens qui arrivent, il faut être là le midi quand il y a les mamans qui vont chercher leurs enfants, il faut être là à 14h pendant la sieste, tu vois, il faut respirer, quoi. Il faut respirer avec la cité pour vraiment comprendre les... Parce que si tu arrives, comme la plupart des journalistes parisiens à l'époque qui débarquaient faire des sujets, temps d'arriver à leur rédac, de prendre le matos, ils arrivaient à 11h et repartaient à 15h. Tu vois qui entre 11h et 15h dans une cité?
Dans les JT, je trouvais ça ahurissant, le décalage entre ce qu'on vivait et ce qu'on voyait. On avait vraiment l'impression que c'était la guerre. À la télé, on voyait que c'était la guerre. Et quand j'éteignais la télé, je sortais dehors, j'allais manger un grec avec mes copains et on se tapait des barres de rire, quoi.
Je me souviens, à l'époque, j'avais vu, je sais plus si c'était sur CNN ou... Muslim Attack. Je me suis dit, putain, mais Muslim Attack.
On écoutait un extrait du film Bondy Blog, Portrait de famille. Ce documentaire a été projeté mercredi dernier à Arras, à l'hôtel de Guines, lors de l'événement Le Cabaret des Colères, organisé par l'Assaut Colère du Présent, avec le concours de Radio PFM. Alors, à la suite de cette projection, était aussi proposée une rencontre avec Inès El Laboudi, blogueuse historique du Bondy Blog et journaliste indépendante. Inès El Laboudi, on la retrouve au micro de Radio PFM. Elle commence par nous présenter ce média, le Bondy Blog, et sa démarche.
Donc le Bondy Blog est né en 2005. En fait, c'est un média qui a été créé par des journalistes suisses qui sont venus s'installer dans la ville de Bondy en Seine-Saint-Denis pour vivre les émeutes, les révoltes urbaines de 2005 et de les raconter de l'intérieur, en fait, sans envoyer un reporter sur place quelques jours qui rentre à la rédac avec des images et quelques témoignages. Je voulais vraiment le raconter à travers la parole des habitants, du boulanger du coin, etc. Et ils ont recensé en fait tous ces témoignages, tous ces reportages sur le Bondy Blog. Et au moment de leur départ, en fait, quelques mois après, ils ne voulaient pas que ça se perde dans les internets et ils ont décidé de le laisser à Mohamed Hamidi, qui était un professeur en lycée à ce moment-là en Seine-Saint-Denis. Et du coup, il a repris le Bondy Blog et il s'est entouré de jeunes, notamment de la ville de Bondy, pour continuer de le faire vivre et continuer de justement rapporter la parole des habitants et d'un peu tout le monde. Et il vit comme ça du coup depuis 11 ans maintenant. Et le Bondy Blog, on le qualifie souvent du média qui est la voix des quartiers populaires. On raconte vraiment tout ce qui se passe de l'intérieur dans nos différents quartiers, dans nos différentes villes. On est issu de plein de villes d'Île-de-France, du coup, et on parle vraiment de tout. Il y a une vraie liberté de traitement de sujets, d'expression, et voilà, on suit aussi l'actualité, parce qu'on reste quand même un média qui doit aussi suivre l'agenda que tout média suit. Mais on parle aussi de ce qui nous concerne personnellement et parfois de ce qui est même très intime pour nous.
À la base quand même de ce média, il y a aussi l'idée d'un mécontentement du traitement médiatique infligé au quartier populaire par les médias de masse.
Voilà, et le Bondy Blog est né aussi, il a été lancé par des journalistes suisses qui avaient un regard vraiment extérieur sur ce qui se passait en France. Et l'initiative perdure depuis parce que justement on raconte quelque chose de différent de tout ce qu'on peut voir dans les médias classiques, les médias de masse. C'est vraiment une parole de l'intérieur, c'est des sujets qu'on traite, qu'on va suivre depuis. C'est parfois des sujets qui nous concernent personnellement depuis toujours ou qu'on va vivre au quotidien. Et c'est vraiment une parole de l'intérieur de tous ces quartiers populaires dont on parle essentiellement quand ça pète, en fait.
Alors, qui fait ce média, finalement, aujourd'hui? Donc, des jeunes encore de différents quartiers populaires de la banlieue parisienne?
Il reste là quelques blogueurs qui étaient là dès le début, en 2005, quand le Bondy Blog a été repris par Mohamed Hamidi et sa petite équipe. Ils sont très, très peu, mais du coup, moi, je l'ai intégré il y a 9 ans aussi, donc je fais partie des plus anciens. Et le Bondy Blog est alimenté, du coup, par une quarantaine, voire une cinquantaine de blogueurs de toute l'Île-de-France. On est principalement de Seine-Saint-Denis parce que d'un point de vue géographique, c'est ce qu'il y a de plus proche aussi. Et que le Bondy Blog est peut-être plus connu dans le 93 qu'en dehors. Mais on vient vraiment de toute l'Île-de-France, de tout âge, il y a de tout profil. Là, on a des blogueurs de 16 à 63 ans en moyenne. Et on a des lycéens, des étudiants, certains comme moi qui sommes devenus journalistes grâce à cette expérience-là et à travers nos différentes années au Bondy Blog. Il y a eu des professeurs, il y a une documentaliste, des gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, qui sont à l'université. Il y a vraiment de tout et je pense que c'est ce qui fait notre richesse aussi, c'est qu'on a vraiment des profils très très différents. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être journalistes plus tard, mais qui ont ce besoin de s'exprimer et qui ont la chance du coup d'avoir un support sur lequel parler et à travers lequel on peut diffuser leur parole en fait.
On est libre de choisir le sujet, on n'est pas guidé au bâton, non, on propose et nos idées sont généralement acceptées.
Franchement, moi, de mémoire, sur quasiment 10 ans, on a dû refuser 2 ou 3 sujets.
Au Bondi Blog, on a une vraie liberté de ton.
Il n'y a aucun tabou, on peut traiter de tout. Donc ça, c'est vraiment une force.
Nous, on ne demande pas à nos jeunes d'être objectifs. On leur demande de ne pas être insultants, de ne pas diffamer, de ne pas être dans le mensonge. Mais on leur demande d'être acérés, de dire les choses, de retourner la table.
Il est là un peu le bijou précieux, c'est la liberté, quoi.
Suite de notre entretien avec Inès El Laboudi du Bondi Blog.
Toi, quand tu es arrivé dans le Bondi Blog, donc en 2007, tu étais quoi, lycéenne, étudiante?
Ouais, j'étais lycéenne, ouais.
Et tu étais intéressée par le journalisme ou comment tu es arrivée finalement au Bondi Blog, toi?
Non, en fait, le Bondi Blog, en 2007, a lancé l'école du blog, qui s'appelle aujourd'hui les masterclass du Bondi Blog. Et c'est une intervention, en fait, il y en avait deux par mois, où des journalistes venaient en fait raconter leur parcours, leurs expériences et nous proposer des ateliers sur en fonction de leur spécialité, que ce soit radio, télévision, écrit, web, etc. Et en fait, Mohamed Hamidi, qui était à la tête du Bondi Blog à cette époque-là, est passé dans ma classe au lycée en nous parlant justement de l'école du blog qui se lançait en septembre. Je connaissais pas le Bondi Blog à ce moment-là, mais je me cherchais encore, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard dans la vie. J'étais en terminale économique et sociale et j'avais atterri là un peu par hasard et je savais pas du tout quoi faire. Mais l'initiative de présenter le métier de journaliste m'intéressait, donc j'y suis allée un samedi matin. C'était à tous les samedis matins à 9h à la bibliothèque de Bondi. Et en fait, la première école du blog était faite par Serge Michel, qui est un des membres fondateurs du Bondi Blog, un des journalistes suisses de l'Hebdo. Et en fait, l'entendre parler, raconter son métier, raconter tout ce qu'il avait pu faire dans sa vie m'a carrément donné envie de faire ce métier-là, en fait. Et ça s'est un peu montré à moi comme une évidence que je voulais être journaliste, j'adorais écrire, etc. Mais enfin, avoir aimé écrire c'est pas le tout, quoi. Pour être journaliste, il faut pouvoir oser aller vers les autres, prendre des témoignages, savoir le faire comprendre ce qu'on a envie de partager avec les autres. Et en fait, j'y allais un samedi sur deux. Je me levais à 7h30 tous les samedis après une semaine de cours, mais j'étais toujours aussi motivée. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est le métier que je voulais faire, du coup.
Aujourd'hui, cette école, elle en est où? Parce que je sais qu'elle noue des partenariats avec les grandes écoles de journalisme. Est-ce qu'il y a toujours cette école du blog, là, le samedi matin?
Oui, maintenant, c'est les masterclass. Du coup, on a des intervenants différents. Ça a repris en septembre. La première était avec Edoui Plenel de Mediapart. On a eu Nicolas Hénin, on a eu Émeric Caron, je dois en oublier. On a eu Marilyn Baumard aussi du Monde, qui traite du coup tout ce qui concerne la migration et la question des migrants. Et là, on essaye du coup de le maintenir 2 fois par mois jusque maintenant. Et pour l'instant, on arrive à avoir des invités et à remplir notre salle. Donc je pense que ça continue d'intéresser même 11 ans après.
Toi, finalement, tu as bénéficié de cette expérience et puis maintenant, tu es une journaliste professionnelle, indépendante. Ça t'a servi pour intégrer des cursus, on va dire, classiques de formation de journaliste?
Oui, en fait, grâce à mon expérience au Bondi Blog, je me suis présentée à la Fondation TF1. En fait, j'ai candidaté pour bénéficier d'une formation en alternance dans une école de journalisme et en entreprise. Et j'ai été prise du coup en 2007 et je pense que c'est... Enfin, je terminais une licence d'arabe littéraire, mais c'est surtout mon expérience au Bondi Blog. On est blogueur, mais on a aussi une démarche de journaliste, quoi qu'il arrive, plus journaliste citoyen, mais on fait le travail d'un journaliste professionnel. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi permis d'intégrer la Fondation TF1, d'où je suis ressortie du coup avec un diplôme du CFPJ de Paris et 2 ans d'expérience, notamment à la rédaction de Metro News, qui appartient au groupe TF1. Et c'est grâce aussi à mon expérience au Bondi Blog que j'ai pu intégrer tout ça. Je pense que si j'avais jamais écrit avant, jamais fait du terrain, fait du reportage, participé à des émissions télé-radio, j'aurais peut-être pas été acceptée dans cette fondation.
Et du coup, maintenant, tu te retrouves finalement à travailler pour des médias qui, qui traitent d'une manière pas toujours agréable de la banlieue. Finalement, tu te retrouves du côté de l'ennemi de base du Bondy Blog, à la base du projet. Comment tu vois ça un petit peu?
On n'est pas spécialement ennemi, mais justement, notre démarche aussi, c'est d'apporter notre point de vue à nous dans ces grands médias. On est aussi, en arrivant dans ces médias-là, on est aussi connu comme blogueur du Bondy Blog et avec tout ce que l'image du Bondy Blog a derrière. Et ça nous permet aussi d'apporter un point de vue différent dans ces grands médias-là. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. On est plusieurs à être dans plein de médias différents, que ce soit télévision ou écrit. Et justement, le Bondy Blog intègre ces grands médias, essaye d'y apporter sa touche. Mais après, c'est sûr qu'on est obligé de suivre certaines règles, mais... on a quand même notre pied au Bondy Blog toujours à côté pour dénoncer certaines choses et on s'en prive pas en fait.
Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Changer le système de l'intérieur, c'est un petit peu ça finalement comme situation. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est jouable quoi? Parce que on se dit bon, il y a une structure qui est là. Il y a une structure économique, il y a une structure rédactionnelle. Changer les choses de l'intérieur, c'est pas si facile. Est-ce que c'est même possible? Comment tu vois ça toi?
Changer les choses de l'intérieur, c'est très très compliqué, mais justement, ça permet d'ouvrir des débats, d'avoir des discussions avec des collègues ou même des chefs sur notre point de vue à nous, en fait, qui va très souvent être différent du leur dans certaines situations, notamment quand on va traiter d'un sujet de banlieue. Enfin, il suffit de prendre un sujet classique et de voir le traitement qui va être fait par tous les médias classiques et celui qui sera fait au Bondy Blog, il sera forcément différent et c'est aussi à nous de faire notre travail de blogueur et d'apporter du coup notre touche et notre point de vue dans ces grands médias. C'est pas toujours facile, hein. On a tous eu certains refus, je pense, sur le traitement de certains sujets, mais faut pas se décourager, faut continuer à se motiver et à essayer de faire bouger les choses, je pense.
Nombreux sont ceux qui se replient vers la religion. La religion, c'est gratuit. On s'empresse de crier au loup, à l'intégrisme ou à l'insécurité, mais le véritable problème est bien plus profond que ça. C'est un mal-être ancré depuis des années qu'il faut soigner. Et contre ça, le Karcher ne peut rien.
Mariés depuis 5 ans, Liès et Noura forment un couple heureux. Monsieur travaille à l'aéroport de Roissy, madame est à la recherche d'un emploi, musulman très pratiquant. Pour prouver son attachement à son amour de mari, Noura a décidé de porter le niqab. Quand Liès part travailler, la copine de Noura est souvent à la maison.
Le mois de jeûne a son lot d'histoires ramadanesques. La dernière en date, Camille est entendue, les dates avec lesquelles les musulmans cassent leur carême sont agréées et approuvées par Israël. Apparemment, ce n'est pas de la salade. Le plan Vigipidate est activé.
Ce jour-là, Liès se rend compte qu'il a oublié son badge. Il retourne chez lui pour le récupérer. Deux niqabs jonchent le sol. Dans son lit, Noura et sa copine, qui se trouvent en fait être un homme, sont en train de faire des galipettes. Pas très catholique comme pratique. Qu'importe, ils sont musulmans à leur façon.
Comment on raconte la banlieue? Pour moi, on raconte comme le reste. On raconte l'histoire. On raconte surtout ce qu'on voit.
Vous écoutez toujours un entretien avec Inès El Laboudi, blogueuse historique du Bondy Blog et journaliste indépendante. Interview ponctuée d'extraits du très bon documentaire Bondy Blog, portrait de famille.
Donc encore aujourd'hui, donc tu travailles dans des médias, on va dire, dominants. Et à côté, tu gardes un pied dans le Bondy Blog, c'est ça?
Oui, toujours. Et j'y écris toujours un petit peu moins parce que je travaille à côté et que j'étais étudiante en arrivant au Bondy Blog. Donc j'avais beaucoup plus de temps pour écrire. Mais pour la plupart, on y garde tous un pied. On continue de s'y exprimer. Et certains sujets qu'on ne peut pas traiter dans nos rédactions, on va quand même pouvoir les traiter sur le Bondy Blog et faire connaître certains sujets, et c'est ce qui fait notre force aussi, je pense.
Alors justement, peut-être tu peux nous donner quelques exemples de sujets, toi, qui t'ont particulièrement intéressé, que tu as pu traiter au travers du Bondy Blog.
Là, par exemple, le dernier sujet que j'ai publié, c'est un sujet sur des étudiants de Sciences Po et de l'ESSEC, dont certains ont été diplômés aujourd'hui et qui ont monté des associations pour venir en aide aux jeunes des quartiers populaires et leur mettre en tête que les grandes écoles, c'est aussi fait pour eux et que c'est pas parce qu'on vient du 9-3 ou qu'on a un nom de famille plutôt arabe ou africain qu'on va se faire recaler de ces écoles-là. Et c'est peut-être pas un sujet qui intéressera les grands médias, mais en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse, nous, au Bandiblog, et qui intéresse beaucoup, beaucoup de jeunes. Et c'est le dernier que j'ai fait, parce que c'est une thématique aussi qui m'intéresse particulièrement, et que moi-même, quand j'avais leur âge, je me disais, Sciences Po, c'est pas pour moi. Mon dossier, on va même pas le regarder, on regardera les dossiers des jeunes parisiens, etc. Et c'est, du coup, les membres de ces associations veulent arrêter en fait cette autocensure que font les jeunes de banlieue, les jeunes adolescents de banlieue. Et c'est une initiative positive dont on n'a pas forcément parlé avant. Et c'est pour ça, du coup, qu'on la traite sur le Bandiblog, parce que ça nous concerne aussi personnellement.
Le Bandiblog, c'est pas seulement un blog, hein, c'est une école, on en a parlé. Et puis aussi un média pluridisciplinaire, on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a une émission de télé. Enfin, je sais pas si elle est encore d'actualité.
Pour l'instant, non, elle s'est arrêtée cet été. On a certains projets en cours pour essayer de reprendre quelque chose. Il n'y a rien qui n'est arrêté pour l'instant, mais en tout cas, pendant plusieurs années, on a eu une émission.
Le Bandiblog Café, c'est ça ?
Voilà, exactement, le Bandiblog Café, diffusé sur LCP et France O. Par la suite. Et du coup, c'est pareil, ça nous a apporté une nouvelle facette du métier du journaliste, qui est le débat et l'interview télévisée et diffusée sur des grandes chaînes, en fait.
Et puis, je crois qu'il y a aussi un lien avec Libé. Enfin, Libé reprend certains papiers du Bandiblog.
Oui, on a un partenariat avec Libération qui nous permet, du coup, d'avoir un peu plus de visibilité. Et, Libération reprend certains articles du Bandiblog et les diffuse sur leurs réseaux sociaux et les met aussi sur la une de leur site en ligne. Et du coup, le logo Libération est aussi visible sur le site du Bandiblog. Mais ça nous permet justement d'avoir une visibilité plus grande et d'avoir aussi des sujets repris par un grand média, du coup.
Quand tu mets les pieds comme ça dans d'autres grands médias, est-ce que tu n'as pas l'impression finalement de sortir de caution et puis qu'on va t'envoyer au charbon, voilà, il y a un sujet à faire là, toi, tu es de la banlieue, va faire ça pour nous.
Oui, ça m'est arrivé, parce que je venais du 93, de me dire, c'est ton secteur. Mais justement, nous, on essaye de... C'est certes nos secteurs, mais c'est pas qu'à nous d'en parler. Et on s'en sortira jamais si c'est que les gens du 93 qui parlent du 93. Le but, c'est d'attirer des gens de l'extérieur qui viennent parler de nous et parler de ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que pour la plupart, je pense, on a été envoyés sur des sujets de quartiers populaires parce qu'on en vient et qu'on a peut-être un profil un peu plus complet là-dessus et que c'est une thématique qu'on va peut-être mieux connaître qu'eux. Mais moi, ça m'est arrivé aussi de dire que c'est pas parce que je venais du 93 que c'était à moi d'en parler, quoi. Mais on a déjà eu des échanges comme ça en rédaction, en tout cas.
Tu es venu à Arras à notre invitation, autour de la projection du film, Bandiblog, Portrait de famille. Comment tu vois un petit peu ce documentaire, toi ?
C'est très représentatif du Bandiblog. Il y a une parole totalement libérée à l'intérieur. On reprend l'histoire du Bandiblog, on revoit... les premières images des blogueurs. La toute première équipe dont je parlais tout à l'heure est visible dans ce film. C'est un peu nos images d'archives à nous qui ont un peu plus de 11 ans maintenant. Mais ça reprend vraiment toute l'histoire. Et il y a eu de l'évolution quand même depuis. Donc c'est un film qui s'est arrêté en 2014, mais qui est très représentatif de ce qu'est le Bandiblog, du coup. Et que j'invite justement à le voir si on veut se faire une idée de ce que c'est. Parce qu'on on y retrouve les blogueurs qui se confient sur leur vie personnelle, sur leur expérience au Bandiblog, sur leur premier article publié et ce que ça nous a fait personnellement. Et en tout cas, c'est vraiment notre image.
Maintenant, faire un blog, c'est commun pour tout le monde. Mais à l'époque, le blog, se voir publié, nous, on n'était pas la génération Internet. On avait 20 ans quand Internet s'est popularisé. Mais se voir publié, c'était énorme pour nous, même dans un blog. Même le Bandiblog, c'était pas ce que c'était maintenant. Mais c'était énorme pour nous tous. On adorait ça. On faisait partie... On a été publié, quoi.
Ouais, c'est assez bizarre parce que moi, en fait, j'ai rendu mon premier papier. Et un jour, je me connecte sur le Bandiblog et je vois Mohamed K. Et j'étais vraiment fier. Je me disais, waouh. Mais je savais que c'était moi qui l'avais écrit, mais je lisais pas, je l'ai lu toute la journée.
J'avais envoyé le lien à tout le monde, je crois, après. Quand on m'avait envoyé le lien, je dis, regarde, tout, lis mon article, dis-moi ce que tu en penses.
Pour les premiers papiers, surtout le premier, le fait de voir son nom, Emmanuel, c'est vrai que j'ai regardé pendant un moment, je dis, waouh.
Ce que j'écris, c'est sur le web et c'est publié par un autre. Donc on est assez fiers et c'est génial en fait. On jubile. Moi personnellement, je jubilais. Je me disais, ce que j'ai écrit, c'est publié. Et on se dit, on va écrire le deuxième encore, il va être publié le troisième. Et du coup, je pense que c'est ce sentiment de fierté pour ma part qui fait que je continue à chaque fois d'écrire.
Puisque tu es invité ici, j'imagine que les gens du Bondi Blog sont pas mal invités à droite à gauche. Est-ce que ça sert, est-ce que ça peut servir d'exemple? Est-ce que bah, justement le Bondi Blog a fait, je sais pas si des enfants ou en tout cas a inspiré d'autres projets comme ça de médias dans des quartiers populaires?
Oui, oui, bah, le Bondi Blog a eu pas mal d'enfants. Certains se sont arrêtés, mais on a eu un Marseille Bondi Blog, un Lyon Bondi Blog, il y en a eu un à Dakar. Donc le Dakar Bondi Blog qui n'est plus alimenté depuis quelques temps. Il y en a eu un à Lausanne, il y en a un qui vient de se lancer à Orléans, le Bondi Blog Centre. Il y en a un à Bruxelles qui s'est lancé il y a quelques mois aussi. Et il y en a un à Trappes, en banlieue parisienne, qui s'appelle le Trappi Blog. Eux n'ont pas repris le Bondi Blog, mais ils ont repris le Y de Bondi et Blog. Mais oui, du coup, l'initiative est reprise et on a aussi des échanges entre nous. Enfin, chacun est vraiment autonome, mais ils reprennent du coup l'image Bondi Blog et parce que leur travail aussi va correspondre à ce que le Bondi Blog fait depuis le début.
Est-ce que ça a changé sur place des choses finalement? Je sais pas, les regards aussi que les gens portent eux-mêmes sur leur ville, sur leur quartier, et puis aussi finalement, est-ce que ça a changé les échanges entre les gens là-bas?
Oui, ça permet aussi d'avoir une image, enfin, de voir ce qui se passe dans sa ville. Sans forcément sortir de chez soi. Enfin, il peut se passer quelque chose dans le quartier d'à côté et dont on ne va pas du tout être au courant. Et justement, ces blogs-là permettent de mettre certaines initiatives en avant et de faire connaître des choses dans une ville même dont les gens ne sont pas forcément au courant. Et ça apporte aussi des échanges. Les portes des blogs, en général, sont très ouvertes. Donc, il y a aussi certaines personnes qui ont découvert des choses sur le Bondi Blog et qui sont aujourd'hui blogueurs, qui viennent s'y exprimer aussi. Non, ça reste vraiment des échanges qui grandissent et qui vont continuer de grandir, je pense.
Inès Labaudie, blogueuse du Bondi Blog et journaliste indépendante, elle était présente à Arras mercredi dernier lors du Cabaret des Colères organisé à l'Hôtel de Guine. Alors, il n'y avait pas grand monde pour participer à cet échange, une douzaine de personnes, et c'est bien dommage parce que c'était vraiment super intéressant. Vous pouvez toujours vous rattraper en visionnant en ligne et gratuitement le documentaire Bondi Blog, portrait de famille.